Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mme Monique Séguin, professeure émérite PhD, département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais, chercheure pour le groupe McGill d'études sur le suicide et le réseau québécois de recherche sur le suicide, la dépression et les troubles associés, l'Université McGill, Institut universitaire en santé mentale de l'hôpital Douglas également. Mme Séguin, bonjour.
Bonjour.
Madame Séguin, le deuil, c'est toujours difficile, mais quand il s'agit d'un décès inattendu ou tragique, on dirait que ça l'est encore plus. Quels sont, dans un premier temps, les outils dont on peut se doter?
Oui, effectivement, vous avez raison. Le deuil, la perte d'un être cher, est toujours un événement très difficile et dont le processus peut être long. Un deuil, en plus, subi, est encore plus difficile parce que les proches endeuillés n'ont pas vu ça venir, n'ont pas fait partie de l'événement, n'ont pas pu se préparer cognitivement au départ de l'autre. Donc, bien sûr, un deuil subi est difficile, surtout au début du deuil, parce que les personnes vont se poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Est-ce que j'aurais pu faire autre chose? Donc, ça peut générer jusqu'à un certain point un peu plus de sentiment de culpabilité que si, par exemple, c'était un décès attendu suite d'une longue maladie où on aurait accompagné un proche à travers toutes les étapes là, de rétablissement possible jusqu'à l'annonce de la fin.
Les personnes qui vivent un deuil comme celui-là, bon, elles ne sont pas seules. Souvent, elles sont entourées de la famille, des amis pendant les premiers jours, même voire les premières semaines. Après ça, chacun reprend son train-train quotidien. Quelles sont les personnes ressources à ce moment-là à qui on peut s'adresser pour nous aider à cheminer et à s'en sortir?
Oui, et ça, vous avez raison aussi de le mentionner. Le processus de deuil, c'est un processus qui peut durer 12 mois, 18 mois. Et pour l'entourage et pour les gens autour, généralement, au bout de quelques mois, les gens autour pensent que, ben, comme c'est terminé pour eux, ça devrait être terminé pour les personnes endeuillées. Mais bien sûr, perdre un ami, perdre un collègue de travail, perdre un voisin, c'est pas la même chose que perdre un proche, un parent, un enfant, un frère, une sœur. Donc, bien sûr, les gens endeuillés vont se retrouver après quelques mois, comme vous l'évoquez, souvent seuls, avoir un peu de la difficulté à passer à travers cette période de deuil-là. Donc, il y a des organismes comme Intersection ou des groupes d'endeuillés après suicide. Donc, je pense que toutes les lignes d'écoute, les groupes d'endeuillés après suicide ou d'endeuillés après toutes sortes de décès sont probablement des ressources importantes pour les personnes endeuillées.
Avec les jeunes personnes dans notre entourage, les questions délicates comme par exemple les deuils, perte d'emploi, peut-être même séparation récente, comment on peut aborder ces questions-là, ces sujets-là avec les plus jeunes?
Ben, en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de conversation, de discussion tabou. Je pense que il faut quand même créer un contexte. Bien sûr, on pose pas des questions comme ça, comment tu vas, si on n'a pas le temps d'écouter la réponse. On pose pas des questions comme ça si ça nous intéresse pas vraiment ou si on est trop mal à l'aise d'entendre la réponse. Mais quand les personnes qui vivent des pertes sentent que l'interlocuteur pose la question vraiment de façon bienveillante, on est dans un contexte où on est capable d'entendre la réponse, ça va faire du bien, généralement, parce que souvent, et vous l'avez vous-même évoqué, les gens ont l'impression qu'ils sont seuls avec ça. Donc, je pense que l'entourage peut poser la question dans un contexte où la personne endeuillée peut répondre, donc un contexte dans lequel elle se sent bien, mais il faut surtout écouter, pas donner de conseils, pas minimiser, pas dire « mais ça va aller mieux », pas avoir des phrases toutes faites, mais vraiment écouter la réponse de l'autre et comprendre que l'autre est dans une période de tristesse, de peine, de souffrance et tout simplement reconnaître ça.
Après combien de temps, Mme Séguin, doit-on commencer à s'inquiéter du deuil d'une personne? Par exemple, la personne proche, et vous le disiez, là, la normale pour les jeunes, c'est 12 mois. Pour un adulte, ce serait autour de 18 mois. Si la personne, après 2-3 ans, ne semble pas être capable de s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut lui proposer de l'aide et surtout quand est-ce qu'on doit s'en inquiéter?
Bien, ça peut être même avant 2-3 ans parce que ça peut se produire assez tôt dans le processus de deuil. Le processus de deuil, comme je vous l'évoquais, c'est long et c'est un processus où les gens doivent s'habituer à vivre la vie sans la présence de l'être cher, de l'être aimé. Donc, ça veut dire qu'on est triste, que les gens sont tristes, que les gens portent un fardeau, que les gens portent de l'ennui, mais ils sont généralement, malgré tout, à part les premières semaines, là, en général, les gens sont quand même capables de se lever le matin, sont quand même capables d'aller faire l'épicerie, de faire le repas pour leurs enfants, de s'occuper, de nettoyer la maison. Si les gens ne sont plus capables de fonctionner, à partir du moment où les gens sont plus capables de fonctionner, là, je pense qu'il faut s'en inquiéter et il faut amener la personne à consulter. Donc, que ce soit son médecin généraliste, que ce soit un psychologue, un travailleur social, un groupe d'entraide, il faut amener les personnes à consulter parce que dans le processus de deuil, il peut se produire chez certaines personnes, 10% à peu près des gens vont vivre des complications, donc peuvent développer un trouble de l'humeur, donc une dépression, des troubles anxieux, un deuil prolongé compliqué.
On parlait un peu plus tôt au courant de cet entretien de il n'y a aucune question qui est taboue, on doit simplement être à l'écoute. Mais si, par exemple, on veut être à l'écoute, on veut faire une bonne action, il y a quelqu'un dans notre entourage qui vit quelque chose de difficile et cette personne-là, finalement, n'est pas prête à en parler et est un peu raide dans son refus de parler. Comment on peut faire pour bien réagir?
Oui, effectivement. Et c'est toujours un peu délicat parce que l'entourage qui veut aider, qui sont souvent bienveillants, parfois on ne sait pas trop ce que la personne endeuillée a besoin. Mm-hmm. Alors, je pense qu'il faut tout simplement être transparent puis lui dire, si on a l'impression d'avoir brusqué la personne, on lui dit, mais écoute, je suis désolée, je ne voulais pas te faire de peine, je ne voulais pas rajouter à ton fardeau, mm-hmm. mais sache que je suis là et que tu peux m'appeler n'importe quand, je vais être là. Et des fois, les endeuillés ou les personnes endeuillées n'ont pas toujours besoin d'en parler, mais des fois, ils ont juste besoin d'une présence avec eux. Quelqu'un qui va s'asseoir avec eux puis écouter une émission de télévision, mm-hmm. un match de hockey, leur tenir la main ou juste une présence. Donc, l'aide peut s'offrir de différentes façons. Donc, à travers la parole, mais ça peut être aussi à travers une présence, à travers faire une activité, des fois juste aller marcher, prendre l'air 10-15 minutes avec quelqu'un. À travers des silences, on peut aussi offrir de l'aide.
Au contraire, Mme Séguin, quand quelqu'un vit un deuil, ça fait pas si longtemps, puis que la personne, on est dans les fêtes, on mm-hmm. a le droit de sourire, de chanter et de danser, et il peut y avoir des personnes, des belles-mères qui vont dire, et là je parle de belles-mères avec des guillemets,
oui.
là, qui vont dire, regardez donc, lui-là, il a du fun, puis il danse, puis il chante, puis c'est quoi cette affaire-là? On a tous nos façons, les mécanismes de défense, donc faut pas non plus, j'imagine, juger les gens dans ce sens-là.
Et vous avez raison, il ne faut pas juger les gens parce que il n'y a pas vraiment, et je pense qu'ici, il n'y a pas, c'est quoi être en deuil, hein, et c'est quoi les comportements appropriés. Et en même temps, à travers d'une semaine, 2 semaines, les gens vont avoir une gamme d'émotions variées. Et c'est possible qu'on voit, on observe une personne récemment endeuillée en train de rire. Mais c'est normal aussi, la personne n'est pas nécessairement dans une réaction de peine et de tristesse et de pleurs 24 heures sur 24. Il va y avoir des vagues. Et le deuil, c'est beaucoup des vagues. Au début, les vagues sont immenses, sont très grandes, sont très envahissantes et caractérisées par beaucoup de peine. Graduellement, hop, tout à coup, il y a
une petite accalmie.
Mais rapidement après, il va y avoir une autre vague. Donc, si on observe quelqu'un dans une petite accalmie, ça ne veut pas dire que la personne, elle est constamment et toujours dans ce mode de réaction-là. Et donc, il faut juste être bienveillant, indulgent et en même temps, pas juger.
Oui, il y a aussi Entraide mm-hmm. de l'Outaouais qui est un excellent organisme. Madame Monique Séguin du département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais, merci beaucoup de votre présence avec nous ce
merci
matin.
Merci à vous et joyeuses fêtes.
Merci, vous aussi.